je suis arrivé en 2012, 10 ans plus tard. Ça fait drôle à dire, mais ça m'a pris 10 ans. 10 ans avant de prendre la mesure des événements du printemps étudiant québécois. 2012, mémoire à faire. Une enquête orale sur un mouvement étudiant historique.
Premièrement, le legs n'est pas quelque chose de fixe. C'est pas quelque chose comme s'il y avait un verdict clair, disons, qui traversait les époques. Je pense que chaque époque va s'approprier ces événements-là à sa façon.
On fait ça souvent, hein? Commémorer les êtres humains, hein?
J'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était hier.
Hier, j'ai ouvert le disque dur du gars à la calotte de Chiz. C'est fou comment il y a une mémoire de ce printemps-là qui est conservée dans les émissions de radio. Je me demandais encore comment raconter cette histoire-là. En premier, je devais en apprendre un peu plus sur les racines du mouvement. J'ai parlé à des gens qui m'ont permis de comprendre ce qui s'est passé avant 2012. Viviane Labry sur l'histoire du symbole du carré rouge. Paul-Émile Auger sur ce que ça prend pour qu'un mouvement comme celui-là voie le jour. Et en cherchant, j'ai aussi découvert que plein de gens, des gens comme moi, essaient de recomposer l'histoire à partir des morceaux éparpillés. C'est le cas d'Hélène Nazon, qui elle aussi a été collectée des témoignages sur 2012, 10 ans plus tard. J'ai été à sa rencontre pour qu'elle me parle de son implication.
Je m'appelle Hélène Nazon, je suis professeure de littérature au Cégep Garneau depuis une bonne quinzaine d'années. Je suis aussi vice-présidente à l'information du syndicat des professeurs du Cégep Garneau depuis 2015. Donc, ce poste-là, ça m'amène dans le fond à traiter tout ce qui touche les communications avec les professeurs, le journal syndical, mais aussi la mobilisation, que ce soit du premier ou du deuxième front. Là. Le premier front étant la convention collective, la négociation. Le deuxième front étant les questions plus d'ordre social, là, urgence climatique, racisme, féminisme, etc.
Elle me raconte comment c'était pour elle en 2012.
Au fond, 2012, ça demeure... comment je pourrais dire... C'est vraiment, au même titre que le sommet des Amériques, c'est un des moments, c'est une des luttes qui m'a le plus transformée, qui a le plus qui continue à occuper une grande place dans mon cœur de mère, de militante, de prof.
Et elle me raconte comment ça s'est passé, 2012, au Cégep Garneau.
Dans la ville de Québec, ce qui est assez particulier par rapport à Montréal, ou même en Abitibi, par exemple, le vote de grève avait passé, là, ou à Rimouski. Donc, à Garneau, les étudiants se sont mobilisés. Au début, ça allait bien. Ils ont vraiment suivi toutes les étapes. Là, aller chercher leur mandat pour un camp de formation. Après ça, des journées de grève. Mais à Garneau, on sait qu'on a les techniques policières. On a un programme de techniques policières. Donc, les étudiants et les étudiantes en technique policière se sont mobilisés. Puis se sont mobilisés assez fortement. Donc, sont allés, on connaît la bonne vieille stratégie. Sont débarqués en Assemblée générale. C'était assez symbolique, c'est-à-dire qu'ils étaient habillés, ils avaient mis leur costume. Ils sont vraiment arrivés là, comme un corps. Là, ils sont vraiment habillés en police. Ils ont obtenu qu'il y ait un référendum, dans le fond, par voie électronique. Puis donc, le vote de grève a été perdu. Cependant, les étudiants à Garneau, ils ont continué à se mobiliser, malgré le fait qu'ils avaient perdu leur vote de grève, c'est-à-dire qu'ils continuaient à aller à leur cours, mais en même temps organisaient des occupations, puis dans le fond, participaient là, au mouvement national, c'est-à-dire quand même organiser des autobus qui partaient de Garneau pour aller à Montréal pour les manifs de la classe.
Même pas en grève, il y avait quand même de l'action chez les étudiantes et étudiants de Garneau. Ils étaient aussi soutenus par certains profs de la ville de Québec.
Dans le fond, quand le vote de grève a été perdu, on a senti certains profs de gauche, à Limoilou et à Garneau, le désir de s'organiser puis de reprendre le flambeau. C'est-à-dire qu'on les a vus démoralisés, on a vu qu'ils avaient travaillé fort, puis toute la province est en ébullition. Là, on voyait que c'était un moment historique important, donc on s'est dit, on passera pas par les assemblées générales syndicales, ce qui implique d'aller chercher des mandats, ce qui implique une mécanique qui est plus lourde. On s'est dit que la forme du collectif plus souple serait plus intéressante, puis nous permettrait d'agir rapidement, d'offrir un appui, dans le fond, concret aux étudiants, puis de lancer un appel à la population. Là, l'idée, c'était vraiment de briser l'image, la pensée unique qu'à Québec, tout le monde était contre la grève. Entre autres, la ministre Beauchamp, tout le monde en parle, était allée dire « Vous avez vu, à Québec, ils sont pour la hausse des frais de scolarité. » Donc, c'est vraiment lorsqu'il y a eu la perte successivement, les Villeauzon, c'est tout tombé en même temps, les Villeauzon, Garneau, Sainte-Foy, Limoilou, les votes de grève pour la grève générale pour la GGI ont été perdus. Donc là, on a fondé le collectif des profs de Québec contre la hausse. Donc, il y avait des profs de Limoilou, des profs de Garneau. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une déclaration. À l'époque, là, c'est ça, on n'est pas comme aujourd'hui. Là. Donc, on a mis en ligne sur un site web une déclaration, la déclaration des profs de Québec contre la hausse, pour dire que nous, pour quelles raisons, on appuyait la lutte des étudiants et des étudiantes, qu'on pensait que c'était une lutte qui était plus, plus globale, qui était axée, oui, sur l'accessibilité, mais la vision... les phrases que d'habitude, là, l'éducation n'est pas une marchandise, on est contre le néolibéralisme, etc. Puis on invitait les gens à signer. En 48 heures, on a eu environ 500 signatures. Donc, c'est à partir de là, c'était ça l'idée, c'est qu'on a mis ça en ligne, on l'a fait circuler dans les réseaux. Puis là, 48 heures plus tard, on a fait une conférence de presse à Garneau pour parler de la déclaration, pour... dans le fond, là, nous inscrire, là, témoigner de notre appui là, aux étudiants et aux étudiantes.
Elle aussi, elle se pose des questions sur comment construire la mémoire de ces événements. Elle a eu l'idée d'organiser un vox pop avec ses collègues. Puis à partir de la matière récoltée, elle a fait un numéro spécial dans le journal de son syndicat.
Donc, je me suis dit, c'est sûr qu'il faut que je fasse un numéro spécial là-dessus dans le journal. Au départ, c'était pas si gros que ça dans ma tête. Mais c'est ça, le printemps étudiant occupe tellement une place encore importante dans ma vie, dans mon cœur, dans ma manière d'appréhender le politique, tout comme le sommet des Amériques, là, j'en parle parce que c'est vraiment, à mes yeux, deux événements, pas de la même ampleur sur le plan de la durée, quoique pour le sommet des Amériques, ça, j'ai quand même participé à une campagne un an avant que le sommet ait lieu, donc en termes de durée, d'apprentissage, de pratiques politiques. Tout ça pour dire que je me suis dit, au départ, c'était un petit projet. Je pensais faire tout simplement un vox pop avec quelques profs. Mais étant donné que le sujet me passionnait puis que je connaissais beaucoup de personnes, donc là, évidemment, je me suis dit, bien, j'ai commencé par le vox pop avec quelques professeurs auxquels je posais les deux mêmes questions. Les questions étant, quels sont tes souvenirs les plus marquants? Du printemps étudiant, puis qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui nous reste du printemps aujourd'hui?
Pour mieux me faire comprendre sa démarche, Hélène m'a fait écouter un extrait de son entretien avec Nadia Beaudoin, une professeure de littérature au Cégep Garneau.
Ça nous amène justement 10 ans, donc 20 ans après le sommet, 10 ans après la grève étudiante, qu'est-ce qui nous reste du printemps étudiant dans nos pratiques, dans nos manières de nous organiser, dans les mouvements sociaux?
Tout d'abord, toute une nouvelle génération de militants. Hein, qui ont vraiment été formés, qui sont nés à la militance pendant cette période-là. Toute une gang de jeunes qui ont 30 ans maintenant, et puis qui sont devenus très efficaces, je dirais, je pense, avec cette période-là.
C'est les deux questions auxquelles donc des professeurs ont répondu. Bassam, Nadia, Gabriel. Il semble qu'il me manque Karine aussi. Je pense que j'en ai quatre. Puis ensuite, je me suis dit, bien, c'est impossible de ne pas donner la parole à une personne qui était étudiante à cette époque-là. Donc, j'ai interviewé Valérie Plante-Lévesque, qui était la coordonnatrice de l'asso étudiante de Garneau à cette époque-là.
Oui, il y a toujours eu, tu sais, le comité femmes, mettons, de l'asso, c'est un comité fondateur, fait qu'il a toujours été là. Nous, à Québec, ça a comme à donner de même, là, on était quasiment juste des filles, en fait. Il y avait des hommes aussi, là, mais c'était pas... T'es pas de type GND ou de type Léo Bureau-Blouin. Là, on n'avait pas de gars bien carriéristes qui occupaient des postes de pouvoir. Là. Même les gars qu'on avait, c'était pas que je qualifierais pas de masculinité toxique. Là. C'était pas des gars qui avaient. Ouais, fait que c'était quand même. Déjà, c'est dans la pratique, on avait un leadership féminin qui était comme assez fort. On collaborait beaucoup avec la coalition, là, avec la coalition Main Rouge. Puis, il y avait des groupes de femmes là, qui s'impliquaient beaucoup aussi.
Elle était très généreuse. Donc, ça commence avec elle. Il y a le vox pop avec les profs. J'ai aussi interviewé un collègue, Sacha Calix, qui est prof de philo à Limoilou, qui était membre du collectif des profs de Québec contre la hausse, pour avoir aussi cette expérience qui m'apparaissait très, je dis ça, très régionale, très Québec. Puis, ah oui, c'est vrai. Puis, bien, c'est ça, à travers tout ça, c'est sûr que j'ai fait un gros, gros travail... En ce qui a trait aux photos, j'avais accès à plusieurs photos. Fait que j'ai tenté de... C'est ça, il y a l'aspect textuel, mais il y a aussi le choix des photos n'est pas anodin. Il y a un récit derrière les photos que j'ai choisi, là, donc ça s'entrecroise, là, de mettre de l'avant, c'est ça, vraiment mettre de la... Ça m'apparaissait important de présenter les 10 ans du printemps étudiant, mais vraiment à partir de la perspective que je connais, qui est celle de Québec.
Même si moi, je n'avais pas vécu les événements du printemps 2012, je cherchais à les reconstituer selon une perspective semblable à celle d'Hélène, c'est-à-dire la perspective de la ville de Québec. J'ai rencontré des personnes clés. Et en parallèle, je continue à fouiller sur le fameux disque dur. La descente du lit, 20 avril 2012.
Les policiers ont arrêté 49 étudiants hier lors d'une manifestation improvisée qui s'est transformée en bousculade au cégep Limoilou. Ils étaient sortis sur l'heure du dîner afin d'assister à un cours donné à l'extérieur par une enseignante de philosophie qui voulait ainsi démontrer son appui au mouvement étudiant. La direction a empêché l'enseignante de donner son cours, puis spontanément, environ 400 étudiants ont manifesté devant le cégep. Les policiers sont intervenus au moment où certains d'entre eux se sont mis à marcher dans les rues avoisinantes.
Ça a piqué ma curiosité. J'ai eu envie d'aller entendre ce que cette professeure avait à dire sur cette fameuse journée.
Je m'appelle Valérie Caillouette-Guillotot et je suis professeure de philosophie au cégep Limoilou.
Elle me parle un peu de son parcours d'études et de ses débuts en tant que militante.
De retour de France, là, j'ai fait ma maîtrise à l'UQAM, puis là aussi, il y a eu un moment donné, puis là, j'ai eu un enfant, donc j'étais monoparentale avec un enfant aux études en maîtrise, puis subitement, là, je pense que c'est en 2005, si je me rappelle bien, il y a eu, donc je me suis fait couper là, mes bourses, puis transformer en prêt là, très rapidement. Donc là aussi, j'ai comme participé à un mouvement de contestation. Dans les coupes qu'il y avait là, aux bourses pour les études supérieures. Puis, à cause de la situation familiale, là, je suis revenue à Québec parce que j'étais seule à Montréal, puis c'était plus difficile aussi. Puis, j'ai trouvé un stage au cégep Limoilou. Puis, rapidement, dans le fond, c'était l'époque là, du renouvellement là, des corps professoraux. Fait que j'ai eu la chance là, très rapidement d'avoir du travail à temps plein, puis même d'avoir une permanence au cégep Limoilou très rapidement, donc après 3 ans. Donc, c'est comme ça. Puis j'avoue que le cégep Limoilou me correspondait aussi. J'avais l'impression, mes amis étaient pas mal au Vieux-Montréal ou à Maisonneuve, à Montréal. Puis j'avais l'impression que le cégep Limoilou était un peu l'équivalent de ces cégeps-là dans la région de Québec. Quand même très multiethnique, avec une population étudiante souvent plus défavorisée, qui vient de milieux populaires. Une association étudiante qui fonctionne bien, etc. Fait que je me sentais à l'aise là, dans le milieu de Limoilou.
Puis elle me présente le cours de philosophie qu'elle donnait en 2012 au cégep Limoilou.
En 2012, ça faisait déjà quelques années que je donnais le cours vraiment par volonté là, personnelle, par choix. Là, je réussissais à avoir la tâche que je voulais. Je donnais le cours d'éthique et politique, donc le 3e cours de philo. Puis donc, je l'avais développé. Je l'avais développé dans une première partie de la session où on faisait plus des questions éthiques. Mais dans une deuxième partie de la session, c'était vraiment voulu, là, on faisait vraiment plus des questions de théorie politique. Souvent, mes collègues font plus la portion éthique en général, mais moi, je suis formée là, en philosophie politique. Je trouve ça important de l'aborder d'un point de vue citoyen déjà de mes étudiants, parce que tous mes étudiants sont différents. Mais ils ont tous le droit de vote. Et donc, je trouve ça important qu'on en parle au cégep. Voilà la deuxième partie. Je fais vraiment le tour des 4 grands courants, on peut dire, grandes théories politiques.
Dans ce cours-là, elle présentait l'anarchisme de gauche, le conservatisme, la social-démocratie et l'anarchisme de droite.
Donc, c'est dans ce cadre-là que j'enseignais. Puis, dans le fond, arrive la période là, du printemps érable, les revendications, puis ça s'inscrivait, là, l'actualité s'inscrivait sans arrêt, dans le fond, dans ce qu'on discutait. Fait que c'était intéressant parce qu'on discutait d'actualité. J'avais des étudiants qui étaient très mobilisés, puis nous aussi, là, comme profs, on était mobilisés aussi. Il y avait certains de mes collègues et moi qui étaient mobilisés. À un moment donné, mes étudiants se sont fait arrêter dans la rue en face du cégep parce qu'ils faisaient une manifestation un peu comique, c'est-à-dire qu'ils appuyaient sur le passage piétonnier, ils traversaient, ils réappuyaient sur le passage piétonnier, ils traversaient. Fait que c'était très, gentil, disons, comme manière de protester, mais comme ils ont fait ça pendant peut-être 30 minutes, à un moment donné, la police est arrivée. Puis la répression avait quand même été assez forte, finalement. Puis mes étudiants s'étaient fait insulter. Il y avait des téléphones quand même cellulaires à l'époque, puis il y avait un téléphone qui avait volé. En tout cas, bref, j'avais trouvé que... Puis les policiers s'étaient pas identifiés. Bref, j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient... Des droits, dans le fond, des étudiants qui n'avaient pas été respectés là-dedans pour une manifestation, somme toute, là, vraiment pacifique.
En 2012, les événements de la rue avaient un écho dans son propre cours.
Fait que c'est un peu en réponse à ça que j'ai pensé faire un exercice pour montrer, en fait, l'idée, c'était de montrer que même si on dit qu'on est dans un état de droit, puis on avait déjà étudié là, la Constitution du Canada, la Charte des droits et libertés, etc., mais que souvent les droits individuels, puis là, entre autres, le droit à la circulation routière, a le dessus sur des droits collectifs. Fait que c'était une hypothèse, en fait. Je me suis dit qu'en allant donner mon cours à l'extérieur... Puis là, j'avais vraiment préparé là, un papier qui expliquait qu'eux devaient rester sur les terrains du collège, devaient rester vraiment observateurs de la scène, etc. Mais que moi, je serais allée donc sur la petite rue, là, c'est vraiment une petite rue qui est près du cégep. Je serais allée sur la rue parler pendant 10 minutes. Puis on aurait... Mon pari était que j'avais l'impression que les policiers allaient intervenir rapidement parce qu'on dirait qu'ils roulaient toujours autour du cégep et ils cherchaient qu'il se passe quelque chose, on aurait dit. Fait que c'était mon pari, mais il aurait très bien pu ne rien arriver, en fait. Là. C'était un peu ça. Fait que j'avais préparé un exercice par rapport à ça, puis pour qu'ils réfléchissent à la question des droits, les droits collectifs, la liberté d'expression, droit d'association, etc., droit de manifester, mais par rapport à la circulation.
Elle m'en dit plus sur l'exercice pédagogique qu'elle a planifié dans ce contexte.
Plus intense cours de philosophie politique que j'ai pu donner. Il y avait aussi des étudiants qui étaient rentrés dans le cégep, qui n'étaient pas de mes étudiants à moi, mais qui étaient venus dans le local de classe. Donc, on était une bonne cinquantaine dans le local. Il y avait des gens assis par terre. C'était vraiment... Puis, dans le fond, on avait la vue sur ce qui se passait à l'extérieur, sur la petite rue en question. Puis là, dans la rue, il commençait à arriver, je pense... une centaine de personnes qui venaient de partout. Puis le président du syndicat, Sacha Calix, était allé à l'extérieur là, pour lire un message. Puis très, très rapidement, là, on a vu qu'en fait, les policiers de Québec avaient vraiment organisé l'affaire là, parce que très rapidement, ils ont pris en sourcière la rue, ils ont embarqué les gens, là, puis sans ménagement. Là. Donc, même des gens qui passaient par là ou qui s'en allaient à leur cours ou des collègues qui s'en allaient donner leur cours se sont fait arrêter, puis il y a eu du sang, il y a eu des blessés, il y a eu des bleus, puis il y a eu beaucoup d'infractions. Là. Il y a eu beaucoup de constats d'infractions qui ont été donnés ce jour-là, là, une centaine. Fait que j'ai gardé là, des images parce que je les trouve révélatrices, là, 494 $ pour avoir entravé la circulation des véhicules routiers. C'est ce qui est marqué. Fait que quelque part, ça donnait un exemple au cours aussi.
Et 49 d'entre eux ont reçu un constat d'infraction de 494 $, comme ça avait été le cas de 14 étudiants il y a 10 jours, je crois, ou 2 semaines.
Ouais. Ouais.
Donc voilà... Du coup, la professeure n'était pas là, mais une manifestation a eu lieu, ça a débordé, 49 arrestations. C'est le plus grand nombre d'arrestations qui est survenu dans la région de Québec à l'occasion des mouvements d'étudiants.
Et Valérie m'a parlé de ce qui est resté de cet événement-là dans sa pédagogie.
Bien, j'ai souvent redonné ce cours-là, puis j'en parle beaucoup quand vient le temps de parler de John Rawls, de la social-démocratie. Comment, dans le fond... c'est vraiment un contrat social qui nous lie, qui fait en sorte qu'on a une espèce de... Puis je reprends l'image là, d'une pancarte que j'avais vue dans les manifs là, qui était marquée « On fait un deal, vous payez mon éducation, je paye votre retraite ». Fait que tu sais, une idée, puis ça c'est vraiment une image que j'avais photographiée dans une manif. L'idée qu'on est interreliés, qu'on n'est pas des individus isolés, mais qu'on fait partie d'une communauté, puis que quelque part... ça se peut que je paye pour des services de santé que j'utilise pas, mais quelque part, c'est un peu une police d'assurance parce que ça se pourrait qu'un jour, j'en ai besoin.
Après ça, elle a eu le goût de me parler de sa thèse de doctorat parce qu'elle s'y est posé des questions sur l'éducation au Québec.
Ma thèse, je l'ai faite justement après ces événements-là. Ça m'a pris 5 ans, mais j'ai surtout étudié les différentes réformes qu'a subi, dans le fond, le système d'éducation québécois, de la création du système d'éducation publique là, jusqu'à à peu près les cours d'éthique et culture religieuse, là, puis un peu la laïcisation au tournant des années 2000. C'est sûr que, dans le fond, le modèle québécois est très particulier, puis justement la création des cégeps, puis l'importance des cégeps dans notre système est extrêmement, moi je trouve, essentielle, puis innovant, puis encore aujourd'hui extrêmement important, justement parce qu'il permet une éducation aux classes populaires, ce que l'éducation avant la création des cégeps ne permettait pas, c'est-à-dire que c'était des familles plus riches qui avaient accès, dans le fond, aux cours classiques, etc. Donc ça, vraiment, je tiens à le valoriser. Par contre, dans ma thèse aussi, je regardais l'impact des nouvelles stratégies de management sur, dans le fond, l'éducation publique. Puis ça, je pense qu'on peut l'observer encore de plus en plus aujourd'hui. Donc, nos institutions d'enseignement, comme les cégeps, mais aussi les universités, sont de plus en plus des lieux de... Un peu comme si, dans le fond, le management des entreprises était maintenant inculqué dans les institutions publiques.
Valérie est spécialiste de la pensée de Hannah Arendt, une philosophe majeure du 20e siècle qui a écrit sur la crise de la culture, sur le totalitarisme et sur le politique, entre autres.
Pour Hannah Arendt, l'éducation, c'est le lieu d'un paradoxe entre le nouveau puis l'ancien. C'est-à-dire que les professeurs sont là pour léguer, dans le fond, la tradition, le monde ancien, les connaissances, la culture générale, etc. Puis les jeunes sont là justement pour bouleverser tout ça, puis transformer les choses quand elles ont besoin d'être transformées. Fait qu'on a besoin d'avoir un fil conducteur pour pas refaire à nouveau chaque fois, puis avoir une conscience puis une connaissance du passé. Mais en même temps, on a besoin des jeunes pour brasser, puis nous ramener aux valeurs essentielles. Puis je pense qu'en se basant sur ces moments-là de révolution, en fait, elle dirait justement que le printemps érable, c'était un lieu d'émancipation, puis je dirais de création de notre identité politique, de recréation de notre identité politique.
Wow! Très belle rencontre, encore une fois. Avec Hélène et Valérie, j'ai un peu mieux compris comment ça s'est passé, 2012, dans deux cégeps de Québec. Mais je savais encore rien de la situation à l'Université Laval. J'ai eu l'idée de parler à Martin Hébert. En 2012, Martin donnait un cours qui a lui aussi été médiatisé pour bien d'autres raisons.
Mon nom est Martin Hébert. Je suis professeur au département d'anthropologie de l'Université Laval. Mes spécialités sont l'étude des dynamiques conflictuelles, notamment... autour de questions d'accès au territoire et d'autonomie autochtone.
Il m'a parlé du cours qu'il donnait à ce moment-là.
Bien, justement, le cours que j'enseignais à l'hiver 2012 est intitulé « Anthropologie des conflits et de la violence ». Donc, c'est un cours d'anthropologie politique, essentiellement, qui se penche sur l'ethnographie de processus de conflit. Donc, les questions de mobilisation politique, les questions de gestion des conflits, les questions de résolution, etc. Donc, toutes les phases d'un conflit habituel, comprises à partir vraiment d'études micro, disons. Là.
Il m'a aussi parlé du début de la grève de 2012.
La dynamique, au départ, ressemblait beaucoup à ce qui avait été connu... disons, plusieurs fois auparavant, là, c'est-à-dire des votes au sein des associations étudiantes. On sentait un bouillonnement, donc on sentait quand même qu'il y avait une grève importante et qui était en train de se préparer, mais on était quand même dans un scénario, je dirais, assez connu. Là. Donc on se préparait encore à quelques semaines où on aurait vu nos locaux cours piquetés et des cours... reporté de différentes façons. Là.
Martin partage un point de vue de prof d'université. Il m'explique ses obligations dans un contexte de grève voté par les étudiants et étudiantes.
Une chose qu'il faut peut-être rappeler, c'est de quoi a l'air une grève étudiante du point de vue d'un prof. C'est-à-dire, quelles sont les obligations d'un prof, quelles sont les conditions dans lesquelles un prof interagit avec une grève étudiante. Premièrement, une grève étudiante, ce n'est pas une grève de profs. Les profs sont syndiqués et, évidemment, le Code du travail encadre de manière très, très stricte là, le droit de grève. C'est-à-dire que peu importe qu'est-ce qui se passe devant notre local de cours, peu importe ce qui se passe dans la mobilisation étudiante, etc., l'attente légale envers les profs, c'est qu'il y ait une tentative pour accomplir ce qu'on appelle la prestation de travail. Donc, tu ne peux pas rester chez vous en disant « ben il y a une grève étudiante, je ne me pointe pas aujourd'hui. » Donc, il doit toujours avoir au moins une initiative du prof et on va dire, une tentative de donner sa prestation de travail normalement. Qu'est-ce que ça implique concrètement, surtout dans le cas des grèves étudiantes qu'on avait connues jusqu'en 2012, ben ça implique une danse que vous connaissez bien où les professeurs doivent se présenter au local de leur cours, à l'heure du cours qui est convenue, constater qu'il y a un piquetage étudiant, par exemple, que l'entrée au local elle est bloquée, prendre acte de ça, et retourner et nous ben dire à notre direction de département, par exemple, qu'on a tenté de se présenter et de faire notre travail normalement et que les conditions n'étaient pas adéquates pour faire cette prestation-là. Ça a l'air très mécanique, mais évidemment, chacun des gestes dans cette séquence-là est encadré par des lois, des règlements, etc.
En 2012, Martin donnait un cours qui a été visé par une injonction. Ça veut dire qu'un de ses étudiants est allé devant les tribunaux pour contourner la grève votée par l'association étudiante.
On parlera également de ce recours collectif d'environ 11 étudiants mené par Laurent Proux et Philippe Champagne qui, dans le fond, ont mis en demeure l'Université Laval. Ils veulent absolument que l'Université Laval puisse rompre les lignes de piquetage selon les classes qui sont touchées par les grèves générales illimitées en ce moment. Il y en a un petit peu moins à l'Université Laval qu'ailleurs, je vous dirais, dans la province, mais n'empêche, ça fait quand même en sorte là, qu'il y a 11 étudiants qui, en ce moment, ont sommé l'Université Laval de rompre les lignes de piquetage et l'Université est forcée, a reçu l'avis d'un huissier hier, comme quoi elle devra comparaître lundi en cours supérieur au palais de justice.
Et là, Martin revient sur la première séance du cours visé par l'injonction.
Le 2 avril 2012, il y a eu une audience en cours à propos d'une injonction qui avait été demandée par un groupe d'étudiants. Cette injonction-là venait rompre, je vous dirais un peu, le rituel dont je viens de vous parler. C'est-à-dire que l'injonction portait sur un élément très particulier de droit, c'est-à-dire la liberté, d'une certaine façon, la liberté de mouvement, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que dans une grève étudiante antérieure à 2012, comme je disais, c'était pas rare, justement, que les étudiants se mettaient en travers de la porte pour bloquer l'accès d'une certaine façon. Et en 2012, l'injonction a été faite sur cette base-là en disant que, en fait, les étudiants, évidemment, avaient le droit de manifester leur mécontentement, avaient le droit d'être en grève ou en tout cas de ne pas aller à leur cours, d'avoir des pancartes, etc. Mais le fait de se mettre en travers de la porte et de nuire à la circulation, si vous voulez, posait une atteinte à certains, supposément à certains droits.
Alors, c'est Laurent Proux, à la base, vous vous souvenez peut-être, c'est cet étudiant d'anthropologie qui poursuit son association étudiante en anthropologie pour 600 $. Il réclame 600 $, lui, pour chaque cours. Finalement, c'est 200 $ par cours pour un total de 3 cours. Et lui, il veut absolument qu'on lui donne sa liberté d'aller à ses cours, d'assister à ses cours en payant à l'université ses frais de scolarité. Il juge qu'il a le droit d'accéder à ses cours malgré les grèves.
Dans les archives de l'ASS, j'ai justement retrouvé le document de cette injonction. Martin m'explique ce moment pivot dans l'histoire des grèves étudiantes au Québec.
Ce que ça crée, en fait, ce que ça a créé en 2012, c'est une différence d'interprétation. C'est-à-dire que les personnes qui avaient demandé l'injonction ont voulu interpréter cette injonction-là comme une obligation de donner le cours. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le local, j'ai 4 étudiants, il y a un prof en avant, le cours devrait se donner. Mais évidemment, là, on entre dans d'autres considérations, c'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on a accès à un local que nécessairement les conditions sont adéquates pour donner un cours? L'injonction en lien avec mon cours s'est jouée beaucoup autour de cette question-là, de dire est-ce que les conditions adéquates pour donner un cours étaient réunies? Parce que les grévistes étaient encore dans le corridor. Faisait du bruit, jouait de la flûte, etc. Là, donc, il y avait vraiment minimalement une ambiance sonore qui n'était pas nécessairement qui menait pas nécessairement dans un climat pour donner un cours. Par contre, ce qu'il faut voir, si on parle particulièrement du 2 avril, c'est que l'injonction a été décidée je pense à 10 heures l'avant-midi, quelque chose du genre. Donc, l'audience avait lieu en avant-midi. Mon cours se donnait, si je ne me trompe pas, à midi et demi. Donc, on a été, évidemment, bon, dans les jours qui ont précédé, mais surtout dans cet avant-midi-là, on était dans l'attente, justement, de savoir qu'est-ce qui était pour se produire. Et, évidemment, le temps de réaction a été... très mince. Vraiment, en l'espace d'une heure, là, il fallait... comment dire? Ben, il fallait trouver une manière de concilier un petit peu les intérêts de tout le monde là-dedans, de faire en sorte que s'il était pour avoir un cours, ben, que ce cours-là se déroule dans des conditions adéquates et aussi ben, ne pas faire comme si la grève n'existait pas. Je veux dire, vous ne pouvez pas donner votre cours comme si vous étiez dans une bulle là, et pas prendre en compte ce qui se passe dans le corridor. Et donc là, en une heure ou une heure et demie, ben évidemment, j'ai eu des décisions très importantes à prendre et ça a donné une certaine formule pédagogique là, pour ce cours-là en particulier.
Donc lui aussi, comme Valérie, a eu une réflexion pédagogique sur comment enseigner dans le contexte de 2012. En plus des médias, un mandat de grève et une injonction de la Cour s'ajoutaient à la balance.
On va essayer de tirer le potentiel pédagogique de ça. Donc j'ai invité premièrement 5 ou 6 de mes collègues à venir dans la classe avec moi. Donc, j'ai adapté la formule pédagogique, disons, là, en disant, mais écoutez, ça ne concerne pas juste un prof. Là. Ce qui est en train de se passer, ça concerne plusieurs profs et aussi, ça concerne la nature de ce que c'est qu'un cours universitaire. Et justement, on a pris cette séance-là pour justement réfléchir sur la manière d'envisager et de gérer des conflits dans le milieu académique. Donc, dans une université, évidemment, depuis toujours, il y a eu des conflits et l'université a ses propres manières de gérer des conflits. Axé justement souvent sur le débat, l'échange d'idées, la collégialité et surtout la reconnaissance que les étudiantes et les étudiants font partie d'une communauté. Et ça, ça a été vraiment un élément important, là, c'est-à-dire que l'idée de l'université, non pas comme un service monnayable, mais plutôt de l'université comme une corporation autogérée, a été mise de l'avant dans cette rencontre-là. Et justement, on a examiné, si vous voulez, ce que ça voulait dire. Donc, ça servir du contexte pour essayer d'une certaine façon, de tirer ce qu'on appellera en anthropologie là, une théorie locale de la gestion du conflit, c'est-à-dire de dire bien, comment est-ce qu'on résout ça selon les valeurs de l'université et selon l'histoire de l'université.
En 2012, dans son cours sous injonction, Martin utilisait le contexte pour rappeler qu'à ses débuts, l'université était un lieu de débat et d'échange d'idées.
J'ai un collègue, entre autres, André Drainville, qui réfléchit beaucoup sur l'histoire de l'université, qui était présent à cette séance-là, et qui, justement, nous a rappelé que, en fait, l'université, elle est née à l'initiative des étudiants, largement. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'une université, disons, dans sa racine, c'est un groupe d'étudiants, d'étudiants au Moyen Âge, là, il n'y avait pas beaucoup d'étudiantes, qui décident de s'embaucher des profs. Un groupe de personnes qui ont envie d'apprendre des choses et qui se donnent les moyens, justement, qui s'organisent, on dirait aujourd'hui un collectif autogéré, là, pour inviter des personnes qui ont peut-être un peu plus d'expérience, des mentors, disons, et qui établissent un contrat social avec ces mentors-là en disant, bien, regardez, nous allons nous occuper de votre subsistance en tant que groupe d'étudiants. Et au Moyen Âge, littéralement, là, si vous étiez étudiant universitaire, la moitié de votre temps était passé à mendier dans la rue, là, je veux dire, le mortier que vous vous mettez sur la tête là, quand vous graduez, il servait à quêter. Donc, au début de la journée, vous quêtiez dans la rue, vous ramassiez vos frais de scolarité, et après ça, avec ce montant-là, bien, vous en aviez collectivement pour vous nourrir et nourrir vos professeurs. Et c'était, bon, c'est une espèce de pacte social où on crée une communauté qui est autogérée et qui est axé sur la production de savoir. Donc, c'est pas un rapport clientéliste, là, où l'université offre des produits puis essaie d'attirer des clients. C'est exactement le principe de l'université, c'est l'inverse. Et historiquement, les universités ont eu beaucoup de latitude, justement, pour gérer leurs affaires internes. Pendant longtemps, les universités géraient les cas d'homicide en leur sein, là. Je veux dire, c'était vraiment des corporations très, très indépendantes. Puis évidemment, à mesure que l'État s'est développé, bien, l'État a retiré des pouvoirs à l'université et bon, a soumis évidemment toutes les actions, les transgressions criminelles, etc. Bon, évidemment, ça a été rapidement jugé à l'extérieur, mais il y a un principe où l'université s'occupe de ses affaires. Et la grève étudiante fait partie de cette tradition-là, justement, où c'est pas comme une grève d'employés, c'est une grève vraiment de membres de la corporation qui décide que les choses ne fonctionnent pas à leur satisfaction et envoie un message à d'autres membres de la corporation et on résout nos différends à l'interne. L'injonction fait partie de ce qu'on appelle un processus de judiciarisation, c'est-à-dire d'enlever cet élément-là, on va dire, de tradition à l'intérieur de l'institution et de le remettre entre les mains d'une autre institution, un juge qui va se prononcer sur ce qui se passe à l'intérieur de l'université. Donc, il y avait vraiment une réflexion sur, justement, le recours et possiblement la subordination, justement, d'une institution universitaire à des institutions qui sont externes, politiques, juridiques, etc., pour régir, finalement, les rapports entre profs et étudiants.
Liberté d'association, vote de grève, injonction. Martin Hébert m'a bien raconté comment ça s'est passé de son côté à l'Université Laval. Valérie Caillouette-Guillotot m'a parlé de son cours au cégep Limoilou et de Hannah Arendt. Et avec Hélène Nazon, j'en ai appris plus sur les profs contre la hausse et la situation au cégep Garneau. Elle aussi cherche à constituer la mémoire des événements. Le mouvement de 2012 a commencé dans les institutions d'enseignement et il s'y est aussi beaucoup passé dans la rue. Beaucoup de gens ont été arrêtés, des droits et libertés ont été brimés. Pendant la table ronde du mois de mai à la librairie Saint-Jean-Baptiste, quelqu'un a dit que l'esprit de certaines lois répressives votées en 2012 perdurait encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans les rues de ma ville? J'ai certainement encore quelques personnes à rencontrer pour tirer ça au clair.